Vous écoutez RTL.
La curiosité, c'est parti avec Sidonie et avec Thomas.
Ouais, salut Stéphane. Est-ce que vous avez déjà assisté à un spectacle d'hypnose ?
Jamais, monsieur, et je vais vous écouter.
Bon, bah, parce qu'on va raconter, nous, l'hypnose médicale, pas l'hypnose qui sert à remplir les salles de spectacle, et notamment les bienfaits médicaux de cette technique. Opération chirurgicale, séance chez le dentiste, aussi trouble de l'érection. L'hypnose
Parfait.
Est de plus en plus utilisée, vous verrez.
Allez, tout de suite sur RTL. On a la patate frite, bien sûr.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Là où il y a les frites, au rythme d'un orchestre qui fait les...
Tu vas pas mourir, et tu serviras la bière et les frites et les croque-monsieur.
Non, pas les frites, ça prend trop de temps, ça pue dans toute la salle.
On est bien entre curieux sur RTL.
Bonjour à vous les curieux, bienvenue dans votre émission sur RTL. On est ravis de vous retrouver pour une heure d'histoire, de secrets, d'étonnement, de bonne humeur et de gourmandise et de frites. Bonjour Thomas.
Salut Sidonie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, vous le savez, on adore les sagas du quotidien. On vous a déjà raconté l'histoire du café, du poivre, des pâtes, du fromage, de la tomate, j'en passe et des meilleurs. Et donc maintenant, on cause frites.
Et oui, les frites sont à la fête, évidemment, sur nos tables, mais aussi au cinéma avec le succès des Tuches 3, la fameuse phrase culte des frites, des frites. Des frites, la petite famille aussi, on mange des frites. Et non, on s'est demandé, bah, ça vient d'où la frite ? Qui a eu l'idée un jour de couper comme ça cette pomme de terre et d'en faire ce petit bâtonnet délicieux ? Bonjour Étienne Mouleron.
Bonjour Sidonie.
Bonjour. Soyez bienvenue, vous êtes belge, bon c'est pas un métier hein, bien sûr, vous êtes auteur et passionné par la frite. On va vous poser cette question terriblement difficile. Quand est née la toute première frite ?
Alors c'est une question effectivement très complexe qui méritera, je l'espère, un développement un peu approfondi. Et j'espère non plus ne pas choquer ces amis français qui ont eu l'amitié de m'accueillir chez vous en particulier, en prétendant d'emblée que la frite, en fait, il faut bien le dire haut et fort et désormais de manière définitive, la frite est bien née en Belgique et peu après, ensuite, est arrivé en France.
Alors, bon, on est d'accord, on accepte qu'elle soit née en Belgique, on veut des preuves.
On accepte notre invité dans ces conditions.
On veut des preuves, Étienne Mouleron.
Merci de m'accepter, d'accepter que je reste, malgré ce que je viens de dire.
Il y a un match entre les Français et les Belges
qui
revendique la naissance de la frite.
Il est pratiquement terminé maintenant. Ouais. Je crois que les Français ont accepté cette évidence.
Qu'est-ce qui prouve que la frite est belge, alors ? Quel fait ?
D'abord, une chose, la frite, c'est bien sûr à partir de pommes de terre qu'elle est faite, et la pomme de terre est arrivée pratiquement un siècle en Belgique et dans les pays du Nord, avant qu'Antoine Parmentier, paix à son âme et respect à cet homme, ne l'importe et ne l'utilise et ne l'exploite en France. Donc partant de là, effectivement, on avait un peu d'avance en Belgique, mais cela étant, les Parisiens, avec leur Pont Neuf, ont rattrapé un peu les Namurois qui, avec leurs fleuves gelés l'un et l'autre, faisaient frire des pommes de terre dans la graisse plutôt que des petits poissons, puisqu'il n'y en avait pas.
Pourquoi on parle du Pont Neuf ? Qu'est-ce qu'il a à voir notre pont avec la frite ?
Eh bien parce que les Français ont souvent prétendu que c'est sous le Pont Neuf à Paris qu'était née la frite, mais c'est la pomme de terre frite qui est née là, ce qu'on appelle la pomme Pont Neuf, alors que la pomme de terre frite est bien née à Namur.
Alors on va tout reprendre dans l'ordre, parce que là moi je suis noyé dans le bain d'huile là. La pomme Pont Neuf c'est quoi, ça se présente comment? Alors, si je dois en manger demain,
je vous inviterai à la maison quand vous
avec
voulez.
Avec plaisir.
La pomme de terre Pont Neuf c'est simplement une pomme de terre coupée en lamelles qu'on passe dans la friture.
D'accord.
La frite, telle qu'on l'entend bien, ce sont bien des bâtonnets trempés dans la même friture graisse de bœuf, idéalement.
Les écrivains ont même loué la frite. Vous avez retrouvé quelques témoignages, notamment de Céline.
Absolument. Alors Céline, justement, prétendait plutôt que la frite était bien née en hexagone, mais donc il se trompait, mais il ne s'est pas trompé que dans ça, et c'est sans doute sa faute la moins grave, peu importe. Mais sinon, des grands écrivains du plat pays, Georges Simenon en tête, n'ont pas manqué de la célébrer quand il faisait monter, non pas des sandwichs, mais un paquet de frites que Madame Maigret cuisinait fort bien.
Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait la toute première frite ? Est-ce qu'elle était épaisse, très fine ? Est-ce qu'on a est-ce que si les historiens se penchent sur la frite, on peut trouver une trace écrite ou un premier dessin, je ne sais pas, de cette première frite ?
Les historiens de la frite existent d'ailleurs ?
Oui, il existe au moins deux, trois grands historiens de la frite. Ils sont tous les trois belges d'ailleurs.
Au hasard.
Et le plus connu, et c'est d'ailleurs à lui que j'ai dédié mon livre, s'appelle Polly Le Guen, à qui je rends hommage.
Histoire passionnée de la frite, c'est le titre de votre livre.
Cela étant, non, on a très peu de traces iconographiques de la frite de l'origine, donc on ne sait pas trop. On sait qu'elle était en bâtonnet, mais était-ce des gros bâtonnets ou des fines frites, nul ne le sait.
Étienne Mouleron, est-ce qu'en revanche, on sait depuis quand ce bâtonnet de pommes de terre frit dans l'huile, on l'appelle frite ?
Eh bien, depuis pratiquement les années 1850, où Monsieur Fritz Forain à Liège eut l'excellente idée de commercialiser des frites, qui étaient nées sans doute avant, mais c'est lui qui a vraiment eu l'idée de la commercialiser sur des lieux de foire où les gens se rendaient à la fois pour acheter des bêtes et autres.
Ah, mais... c'était un monsieur, il y avait un Monsieur Fritz.
Enfin, il s'appelait pas tout à fait Fritz, mais on l'appelait Monsieur Fritz et il a gardé ce nom.
Moi, je croyais qu'on nommait la frite parce qu'elle était frite. C'était une pomme de terre frite dans le.
Oui, voilà, c'est essentiellement que là se trouve son origine, mais on l'a un peu récupéré avec Monsieur Fritz, qui donc lui doit ou presque son nom.
D'accord, il portait ce nom par analogie, on va dire, avec la friture. Vous publiez donc cette histoire passionnée de la frite aux éditions Jourdan, et ça va nous amener à parler de quoi ?
Vous avez commencé à parler évidemment de la pomme de terre, pas de frites sans pomme de terre. On va vous raconter sa découverte il y a 10 000 ans. Restez vous régaler avec nous, si vous voulez, les curieux, sur RTL. Allez. On a toujours faim, nous.
La curiosité est un vilain défaut.
L'habitude de prendre des petits poissons de la Meuse et de faire bouillir dans l'huile et ainsi les manger.
RTL.
Mais en hiver, lorsque la rivière était gelée, ils prenaient des pommes de terre, les coupaient en tout petits poissons et c'est ainsi que la frite serait née.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais c'est une histoire inventée, il n'y a aucun fond scientifique pour cela. C'est une fable, oui, c'est bien ça.
On est bien entre curieux sur RTL.
Pourquoi t'aimes les frites ?
Il était une fois une frite, c'était l'extrait d'un reportage diffusé sur France 5 avec la voix qu'on a entendue, c'est celle du président du Parlement belge, Herman de Croo, qui raconte donc cette légende autour de la frite. Et on se rend compte avec notre invité, qui est un fritologue émérite, Étienne Mouleron, belge forcément, parce que c'est, vous nous l'avez dit, c'est de là qu'est partie la légende de la frite, que c'est assez quand même compliqué. Et on ressent souvent ça, nous, dans cette émission, quand on raconte l'histoire d'une recette, d'un aliment, d'un produit, c'est difficile de trouver la paternité, la première recette précise ou celui qui en a eu l'idée. En revanche, c'est plus facile de dire qui gagne le match aujourd'hui. Alors, les Français, par exemple, combien consomment-ils de frites par an ?
Bah écoutez, une estimation laisse penser qu'ils en consommeraient aux alentours de 65 kilos en moyenne par an.
D'accord.
Les Belges les dépassent un peu.
Bon, de combien de kilos ?
Oh, d'une petite dizaine à peine.
Ah, quand même.
Quand même, oui.
Attendez,
oui,
parce que je ne me rends pas bien compte, 65 kilos de frites, c'est beaucoup par an ?
Bah,
c'est une fois par semaine,
au moins une fois par semaine, effectivement. Mais
une bonne assiette.
Pour ce qui est de la Belgique, le chiffre est assez logique, dans la mesure où il y a quand même 5000 friteries en Belgique, ce qui n'est pas le cas au total, même en France. Donc...
Non, il y a très peu de friteries en France. Ça ressemble à quoi une friterie en Belgique ?
Alors,
moi, je vais vous dire.
Invitez-nous.
C'est un restaurant, on rentre, on mange de la frite, sauf que c'est plus compliqué et subtil que ça.
C'est très multiforme. Vous avez la baraque à frites, qui est vraiment la baraque la plus élémentaire. Vous avez le bus frites, qui est annoncé un bus transformé. Vous pourriez avoir un avion frites. Il y en a peut-être un d'ailleurs qui existe, je le sais pas. Il y a les wagons frites aussi, où on a transformé d'anciens wagons. Il y a les maisons frites, bourgeoises ou presque. Il y a les villes, la frite. Donc, ces friteries prennent des formes très diverses.
Mais est-ce qu'il y a des bains d'huile différents, avec des goûts différents ? Parce qu'en fonction de du produit dans lequel on fait frire les patates, ça ne donne pas le même goût, forcément.
Alors, vous m'êtes sympathique, mais je vais quand même rester calme, parce que c'est moins d'huile dont il s'agit que de graisse, idéalement.
Ah oui, c'est très important.
De graisse de bœuf.
J'ai failli dire un gros mot, quoi, c'est
oui,
ça ?
Oui, non, mais je vous pardonne, vous m'êtes encore une fois fort sympathique. Mais maintenant, c'est vrai qu'on utilise des huiles diverses pour des raisons diététiques et autres, mais au départ, ce sont bien des bains de graisse de bœuf qui sont doux. Chacun a des températures un peu différentes et en deux bains, on fait les frites, les meilleures frites qu'on connaisse.
Alors avant de revenir sur ces recettes et ces formes, on va faire un hommage à la pomme de terre sans laquelle rien n'aurait été possible. Tiens, on dirait un remerciement au César. Quand la patate est-elle découverte et où ?
Alors la patate nous vient d'Amérique du Sud. Ce sont les conquistadors, Christophe Colomb en tête, qui l'ont ramenée, où elle existe depuis pratiquement 8000 ans.
Ils en font quoi les Amérindiens à l'époque ?
Eh bien, ils s'en servaient à la fois pour se soigner du scorbut, ce que les marins qui les ont ramenés ont fait également. Ils s'en servaient pour se nourrir, tant qu'à faire aussi. Ils s'en servaient, d'aucuns le prétendent, un peu aussi comme d'hallucinogène, parce que la frite aussi, ses vérités, ses qualités. Et ils s'en servaient, encore une fois, pour essentiellement leur quotidienneté. Donc elle est née en deux pays, essentiellement l'Équateur et le Pérou.
Est-ce que la pomme de terre peut être toxique aussi et si oui, comment on... Comment on surmonte cette toxicité?
D'aucuns le prétendent. Alors, c'est marrant ce que vous me dites, parce qu'elle peut être toxique à différents niveaux. Je prends un cas qui est assez étonnant, d'un type qui ne buvait pas une goutte d'alcool et qui, chaque fois qu'il consommait des frites, était complètement ivre. Il était victime d'un syndrome dont le nom m'échappe maintenant, mais qui le rendait complètement... parce qu'il y a du méthanol dans la frite en particulier. Ouais. Et ce type s'est fait arrêter plusieurs fois, alors qu'il venait simplement de manger un paquet de frites.
Pour conduite en état d'ivresse,
Il roulait pas droit. C'est avéré, c'est un cas assez exceptionnel. Ouais. Mais effectivement, on le prétend, mais j'en suis pas du tout convaincu, qu'il y a aussi des risques un peu hallucinogènes et autres, mais c'est quand même extrêmement rare.
Et c'est pour ça qu'on appelait la pomme de terre longtemps le fruit du diable, et puis après, elle a pris d'autres noms en Europe.
Oui, alors pourquoi le fruit du diable? C'est parce qu'à l'époque, l'Église catholique, qui se mêle un peu de plein de choses, a considéré que la frite dont les tubercules s'enfonçaient très fort dans la pomme de terre, devait toucher au diable et donc devait avoir des influences maléfiques. Et donc, il fallait ne pas consommer de pommes de terre, mais plutôt du blé, le blé qui sert à fabriquer la Sainte Hostie.
Et après, cette pomme de terre, elle se retrouve un peu partout en Europe avec des noms différents, c'est ça qui est rigolo.
Voilà, alors elle arrive essentiellement dans les pays du Nord, puisqu'à l'époque, la Belgique fait partie des pays bas espagnols, et donc c'est comme ça qu'elle arrive avant tout dans nos pays du Nord, en Irlande également par d'autres voies, mais en France, elle n'arrivera qu'un siècle plus tard, encore une fois.
Et on l'appelle la taratoufi ou tartufoli dans les Alpes italiennes, cartoufle en Savoie. Il y a un moment important dans le courant du XVIIIe siècle où la pomme de terre, ce tubercule, va prendre de l'importance, va se populariser. C'est quoi? C'est les famines? C'est difficulté?
Voilà, exactement. J'entendais le propos tout à l'heure, de Derbin de Croo, que je conteste un peu, parce que c'est avéré, tant en Belgique qu'en France, que les fleuves gèlent, ça c'est pas nouveau, et que souvent les gens, pour se nourrir, alors qu'ils pêchaient les poissons, ont eu l'idée d'utiliser des pommes de terre qu'ils faisaient frire dans les mêmes bains d'huile.
Alors, on va continuer de raconter l'histoire de la frite, ou plutôt la goûter, ça vous dit?
Ah,
on
oui.
vous propose quelques recettes, là. D'accord, des très fines pour Madame Bonnec. C'est parti, la commande est lancée. A tout de suite sur RTL.
RTL.
Bah, il ouvre votre restaurant.
Hein? Quel restaurant?
Dans votre restaurant, la baraque à frites.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis pas un restaurant. Le baraque à frites, c'est une baraque à frites, hein? C'est là.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Une caravane. C'est tout une caravane. Attends, je suis une baraque à frites. Ils dorment plus dedans, ils font des frites.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
La baraque à frites, vous en souvenez sans doute de Bienvenue chez les Ch'tis. Qu'on les achète dans une baraque à frites ou qu'on les fasse chez soi, les frites, on les aime nature, à la mayo, au ketchup, toute seule, dans du pain, à la fourchette ou à la main.
Tout ça en même temps.
Parfois,
vous êtes vraiment gourmand, non, je rêve.
Étienne Mouleron, quelles sont les différentes silhouettes de la frite? On va commencer par la plus connue. Est-ce qu'elle a un petit nom? La toute fine, bien gaulée, là.
C'est l'allumette, comme vous dites, bien gaulée et bien gauloise. Donc, effectivement.
Oh, l'allumette, elle est très fine. Elle a fait quoi?
C'est la plus fine, oui, vraiment.
Il y a des dimensions, j'imagine, pour les frites.
Non, il n'y a pas vraiment un métrage précis, mais bon, c'est certainement la plus finement coupée. Vous avez eu une expérience aussi d'une frite dite hexagonale, mais qui n'a pas vraiment connu du succès. C'est un cuisinier d'origine italienne en Belgique qui a eu l'idée, parce qu'il est vrai que la frite hexagonale avait la qualité de recueillir moins de graisse autour d'elle et donc était plus diététique. Mais manifestement, les Belges en particulier sont plus attachés à leurs frites.
Il y a des frites trapues aussi qui sont assez épaisses.
Il y a des frites trapues, effectivement, et nos amis du Québec d'ailleurs les utilisent pour la poutine, entre autres. Mais là, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gras, avec bien de la mayonnaise également. Mais donc, on reste plutôt dans les frites allumettes essentiellement.
Les plus costauds, on appelle ça quoi? Des bûches, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement, des bûches.
Et la Pont-Neuf, vous nous rappelez, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, à quoi elle ressemble, la Pont-Neuf?
Alors, la Pont-Neuf, ce n'est pas une frite à proprement parler, c'est une pomme de terre frite, c'est une pomme de terre coupée en lamelles que les pauvres, au pied du Pont-Neuf, effectivement, faisaient frire.
On la mange plus, alors, la Pont-Neuf?
Si, mais sous une autre forme, alors sous une forme plus ronde et plus enveloppée, dirons-nous. Ouais.
Est-ce que ça dépend, la forme de la frite dépend de la région, du pays, France ou Belgique, ou de la région en France?
J'avoue, là, ne pas pouvoir répondre. Ça me laisse songeur, parce que la femme belge est à la fois très mince, donc pomme allumette, mais peut être un peu plus enveloppée, donc les deux formes de frites qu'on connaît, évidemment.
Pour tous les goûts, évidemment.
Bien sûr.
Est-ce que c'est vrai, Étienne Mouleron, que les Chinois sont à fond dans le business de la frite? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans?
Absolument. Alors, quand la Chine s'est éveillée, enfin, les Belges sont venus avec leurs frites pour leur faire découvrir. Alors, la frite est jaune, donc c'était c'est déjà un bon acquis.
C'est l'humourologue, car c'est
voilà,
aussi votre métier qui parle.
Exactement. Mais bon, il y a tout un marché, évidemment, qui est immense, au point que maintenant, le Chinois est pratiquement le plus gros consommateur de frites au monde, évidemment, vu la population.
Alors, on a déjà allumé, si j'ose dire, votre courroux tout à l'heure en parlant d'huile de frites.
Vous allez y retourner, Thomas.
Oui, mais j'y retourne. Donnez-nous des conseils. C'est quoi la meilleure graisse, alors, parce qu'il faut dire graisse pour cuire les frites.
Alors, si je puis me permettre, trois conseils pour faire de bonnes pommes frites.
Allez-y.
Une bonne pomme de terre, la binche, obligatoire, incontournable. Deux graisses de bœuf, deux bains de graisse de bœuf, et ensuite le savoir-faire du fritier qui arrive à effectivement les rendre les meilleurs possibles.
Mais attendez, la graisse de bœuf, chez moi j'ai de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, mais la graisse de bœuf, je ne sais même pas où l'acheter.
C'est très bien, et votre taille d'ailleurs en fait état, mais vous la
pourtant,
trouvez...
Pourtant j'en mange.
Vous la trouvez dans toutes les grandes surfaces, de la graisse de bœuf, qui est un peu aménagée, un peu altérée, un peu diluée, mais sinon, en Belgique, vous trouvez effectivement encore dans des boucheries en particulier, de la véritable graisse de bœuf pour faire de véritables frites.
Et alors, pour les gens qui sont véganes ou végétariens, qui ne veulent absolument pas mettre de graisse de bœuf sur les frites, on peut les comprendre. Il y a des huiles végétales, je ne sais pas, l'huile de soja ou l'huile de pépin aussi pour faire les frites.
Ou alors, ils prennent des frites surgelées qui passent au four et puis ils mangent leurs frites, mais le plaisir n'est pas tout à fait le même.
Allez, tiens, une recette de frites par un grand chef dans un instant. Des frites 5 étoiles à venir. Merci d'avoir choisi RTL, première radio de France.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Vous en avez assez des donneurs de leçons, vous ne supportez plus les polémiques creuses. Mais avez-vous déjà écouté On refait le monde, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre sur RTL? Des points de vue tranchés et argumentés, des échanges vifs et toujours surprenants, des grandes signatures venues de tous les horizons, mais aussi de la bonne humeur et des surprises. C'est tous les soirs de 19h à 20h sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
On croque des frites dans la curiosité avec un spécialiste de la frite, ça tombe bien, Étienne Mouleron. Il y a une recette que vous vouliez...
faire venir un spécialiste des huîtres.
Et puis, au dernier moment, vous m'avez ouvert les yeux.
C'est mieux spécialiste de la frite. Ouais.
Heureusement que vous êtes là quand même, Thomas.
C'est pour ça qu'on est deux.
Étienne Mouleron voulait nous faire découvrir la recette du regretté Paul Bocuse, chef triplement étoilé au Michelin qui est disparu le 20 janvier dernier. Quels sont les bons conseils à retenir pour faire des bonnes frites chez nous?
Alors, en résumé, Paul Bocuse, qui s'y connaissait quand même un peu, disait qu'il fallait d'abord bien les laver, parce qu'il y a quand même de l'amidon qui colle au sinon, qu'il fallait les fameux deux bains dans lesquels les tremper successivement.
Ah oui, on fait une fois, on enlève, voilà. On attend quoi, quelques secondes?
On est en Belgique, on fait une fois, c'est bien connu, et puis on fait une deuxième fois, c'est tout aussi connu pour ce qui est de la frite.
D'accord.
Et puis, troisièmement, et Paul Bocuse s'y connaissait, pardonnez l'expression peut-être un peu osée, en va-et-vient, puisqu'il fallait faire un va-et-vient avec les paniers de frites pour que les dégraisser au maximum. Hommage lui soit rendu, cela étant. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, si vous voulez, la fois prochaine, j'écris un livre sur les moules, comme ça on pourra parler des deux en même temps.
Ah bah voilà,
des moules frites.
Ah bah écoutez, parfait. C'est formidable.
C'est très bien. Et puis tiens, je profite de votre présence parce que vous avez créé la Maison du Rire et de l'Humour à Cluny et le prix d'humour, Humour de Résistance, ça fait une dizaine d'années. Qui va l'emporter cette année? Qui reçoit le prix Humour de Résistance?
Alors cette année-ci, et c'est pas sans émotion, nous allons le remettre à titre posthume, mais personne n'est parfait, à quelqu'un qui va fêter les 30 ans de la fin de son cancer. C'est Pierre Desproges. J'ai lu cette expression, donc je n'ai aucun problème à la reprendre.
Oui.
On le fait en parfait accord avec ses deux filles, parce que Pierre Desproges a une mémoire qui est bien, à qui l'hommage est bien rendu par ses filles. Et donc, on va le remettre dans une petite ville, dans le Limousin, à laquelle il était très attaché. Le prix du monde résistant, dont le sous-titre est « Quand on n'a que l'humour pour unique secours », qui fut attribué à des gens autant dans les camps de concentration comme Germaine Tillon, que tétraplégique comme Filippo Zodibolco, par exemple.
Eh ben, bravo. Et merci
bravo.
D'avoir
merci
à vous.
Et merci Étienne Mouleron. Je rappelle que vous publiez une histoire passionnée de la frite, c'est aux éditions Jourand. Merci de nous avoir régalés.
Vous écoutez RTL.